France Info.
Son surnom dit tout, c'est le champion de la prise d'otages carcérale qui a sévi hier soir à la prison de Condé-sur-Sarthe. L'administration pénitentiaire explique que Francis Dorfer, qui est libérable en 2060, est coutumier de ce genre de fait. Il est classé DPS, détenu particulièrement signalé. C'est un profil psychiatrique très lourd, mais il n'est pas incarcéré pour des faits de terrorisme, précise le ministère de la Justice. Autrement dit, rien à voir avec l'agression qui s'est produite il y a 3 mois. Dans ce même établissement ultra sécurisé lorsque 2 surveillants avaient été attaqués par un prisonnier radicalisé. La question aujourd'hui, c'est de savoir si les détenus comme Francis Dorfer ont vraiment leur place en prison. On sait par ailleurs que beaucoup de prisonniers souffrent de maladies mentales et que la détention, pour le coup, ne soigne pas. Ça serait plutôt le contraire. On va voir ce qu'en pensent nos invités. Nous sommes avec Pierre Lamotte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et criminologue, expert honoraire près la Cour de cassation. Vous avez travaillé en prison à Lyon, je crois.
Oui.
Jean-Pierre Ricard, bonjour à vous.
Bonjour.
Ancien directeur de prison, vous êtes aujourd'hui l'auteur d'un livre intitulé « Traversière de hasard, mémoire d'un directeur de prison ». C'est aux éditions du Panthéon. Avant de vous entendre, Laurent Doulsan, chef du service police-justice de France Info, est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Arsine.
Que s'est-il passé exactement hier ?
Eh bien, la prise d'otage a démarré vers 19h40, au moment de la distribution des repas en cellule. Francis Dorfer a réussi à enfermer dans sa propre cellule 2 membres du personnel pénitentiaire, un surveillant et une stagiaire. Il les a menacés avec une arme artisanale, une sorte de pique, mais il était aussi muni d'une paire de ciseaux et d'une fourchette. Après de longues heures de négociations, alors que le raid était sur place prêt à intervenir, il a libéré d'abord le surveillant, puis environ une heure plus tard, la stagiaire, 2 otages finalement sains et saufs. Une chose est sûre, elle nous a été confirmée ce matin, Dorfer, malgré ses prises d'otages à répétition, bénéficiait dans cette prison d'un statut d'auxiliaire. Il participait notamment à la livraison des repas et disposait d'une plus grande liberté de mouvement que les autres à l'intérieur de l'établissement.
Et pourtant, je le disais tout à l'heure, c'est un détenu DPS, détenu particulièrement signalé. Qu'est-ce que ça signifie sur le régime de détention de ces détenus particuliers ?
Alors, ça signifie qu'ils font l'objet d'une surveillance en théorie plus rapprochée. Ils sont censés notamment avoir une liberté de mouvement moins importante que leurs co-détenus, ce qui peut paraître contradictoire avec ce statut d'auxiliaire que l'on vient d'évoquer. Les DPS n'ont en général pas le droit de travailler en détention, mais ils peuvent participer aux activités. Les détenus peuvent être classés DPS en fonction de leur comportement en prison, mais aussi en raison de leur profil. Les condamnés issus du grand banditisme, ceux qui bénéficient de soutien à l'extérieur pour une éventuelle évasion, peuvent par exemple être estampillés DPS. Un mot, Hercine, enfin sur la radicalisation évoquée parfois au sujet de Francis Dorfer. Selon nos informations, il avait été suspecté de radicalisation il y a une dizaine d'années, mais le suivi mis en place à l'époque n'avait pas permis de confirmer cette hypothèse. Il est en revanche présenté comme un détenu au profil psychiatrique très lourd, issu d'une famille en grande difficulté. Il avait été placé en foyer dès l'âge de 12 ans.
Laurent Doulsan, chef du service police-justice de France Info. Jean-Pierre Ricard, on peut peut-être commencer avec vous, ancien directeur de prison, à propos de ces détenus particulièrement signalés, DPS et auxiliaires à la fois, dans le cas de cet homme. Est-ce qu'il vous semble y avoir un problème là ?
C'est toujours facile de parler après coup, mais effectivement, tel que c'est présenté et tel que c'est raconté à travers les médias, ça paraît étonnant que ce détenu, à la fois DPS, souffrant, semble-t-il, de troubles psychiatriques, puisse être classé, d'autant plus que c'est lorsqu'on est classé, qu'on travaille en tant qu'auxiliaire, l'on peut plus facilement accéder à des outils, à des matériels contondants qui, à ce moment-là, peuvent devenir dangereux. Oui. Et il y a une deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est s'il est réellement souffrant de troubles psychiatriques, pourquoi n'est-il pas placé dans une unité hospitalière spécialement aménagée ? Ces unités ont été créées pour des condamnés, femmes ou hommes, à partir de 2004. Donc oui. Peut-être qu'il n'y en a pas dans la région, peut-être qu'il y en a un peu plus loin, mais moi ça m'étonne que l'on annonce qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'il ne soit pas dans l'établissement spécialisé.
Alors effectivement, c'est la question centrale de notre discussion. Pierre Lamotte, qu'en pensez-vous alors sur tous les points qu'on vient d'évoquer là ?
J'ai ouvert la première UHSA et j'ai travaillé pendant des années à la conception de ces unités. Il est hors de question d'imaginer d'en faire des unités de séjour permanents. Si vous prenez les simples statistiques, les enquêtes en jour donnée, tout ce qui a été fait, la clientèle des UHSA représenterait un nombre très supérieur au nombre de lits du programme qui a été au départ fixé à 770 et qui n'est pas encore terminé pour 71 000 détenus.
UHSA, donc, ça veut dire quoi simplement pour nos auditeurs ?
Unité hospitalière spécialement aménagée, comme vient de le rappeler Jean-Pierre Ricard. Ce sont des unités qui sont surtout actuellement destinées à faire des séjours de rupture sur les longues peines, même si bien sûr elles peuvent accueillir au long cours pour plusieurs années quelqu'un qui en aurait besoin. Mais je crois que le profil, pour ce que j'en sais, parce que encore une fois on parle sans tout à fait savoir, ce que je sais de Francis Dorfer, c'est qu'il relève plutôt d'un trouble de personnalité avec des difficultés de comportement graves, certainement très perturbantes et très difficiles à gérer, mais ce n'est pas un psychotique lourd nécessitant des soins sans consentement. Il demande des tas de choses et je crois que c'est un des points centraux de la question. Son avocat rappelait qu'il n'a pas arraché l'ongle de qui que ce soit et que sa dangerosité est surtout une dangerosité de peur qu'il fait. Mais il faut se souvenir que dans les très longues peines, on a connu tous des gens qui nous disent « il ne me reste plus que la peur que je peux faire ». Et ça, c'est terrible parce que quand on n'a plus de possibilité d'être interlocuteur et acteur de sa peine, sur une perspective aussi longue, c'est impossible à gérer.
Oui. Alors la question aujourd'hui, Pierre Lamotte, c'est est-ce que cet homme a vraiment sa place en prison ? Est-ce qu'il devrait plutôt être suivi comme un malade dangereux plutôt que comme un prisonnier malade,
alors,
disons-le comme
ça.
Je
crois que je viens de vous répondre qu'à mon avis, non, on ne peut pas imaginer qu'il ne puisse pas être dans un lieu de vie qui soit une prison. Le problème, est-ce que la prison peut être un lieu de vie ? On l'envisage assez rarement sous cette forme, et pourtant, on fait des expériences de lieux de vie partout. On sait très bien, et tous les grands pays de droit qui ont réfléchi à la question des très longues peines savent qu'il ne faut pas en faire des peines de désespérance. Les États-Unis qui ont été avec Pelican Bay jusqu'au bout de ce qu'on peut aller de la prévention immédiate de la dangerosité avec les surveillants en gilet pare-balles, les gens qui donnent leurs mains au travers des barreaux pour être menottés avant de sortir, etc., n'ont pas réussi à établir un contact et à éviter qu'il y ait des agressions. Je crois que on ne peut pas imaginer qu'on aille vers autre chose que la prise du risque de l'autre, mais pas d'un risque de vie, du risque de dialogue, d'être vulnérable. Une prison invulnérable ne peut que tuer. Et je pense que l'honneur de notre pays est que nous ne tuons pas les détenus, même lorsqu'il y a des interventions du RAID, quelquefois, qui sont rendues nécessaires sur les radicalisés.
Jean-Pierre Ricard, voulez-vous réagir à ce qui vient d'être dit ?
Ah, tout à fait. Bonjour, docteur Lamotte.
Bonjour. Nous avons des aventures communes, y compris des aventures avec des gens difficiles.
Alors, Jean-Pierre Ricard, allez-y, 30 secondes avant la pause.
Oui, donc, effectivement, nous avons assez souvent, de condamnés longue peine qui on constate des troubles du comportement. Lorsqu'il y a des incidents de ce genre, grave comme avec ce monsieur Dorfer, bien sûr on réagit à chaud sur le coup, on pense évidemment sécurité du personnel, et en même temps on va se préparer.
Bon, je suis obligé de vous interrompre, Jean-Pierre Ricard, vous reprendrez après l'info puisqu'il est midi 20. Voici Lauriane Delanoë. Le champion de la prise d'otage carcérale a sévi hier soir à la prison de Condé-sur-Sarthe. Voilà le surnom de Francis Dorfer, coutumier de ce genre de fait. La question que nous posons ce midi est de savoir si ce type de détenu a réellement sa place en prison. Nous sommes avec Pierre Lamotte, qui est psychiatre et criminologue, expert honoraire près la Cour de cassation, et Jean-Pierre Ricard, ancien directeur de prison, auteur d'un ouvrage intitulé « Traversière de hasard, mémoire d'un directeur de prison ». C'est aux éditions du Panthéon. Vous aviez la parole, Jean-Pierre Ricard, à propos des cas difficiles ou peut-être similaires que vous aviez connus.
Oui, le docteur Lamotte indiquait qu'on ne peut garder en permanence des détenus ayant du trouble du comportement et qu'à un moment donné, il fallait les réintégrer dans un circuit d'activité. C'est aussi lorsqu'il réintègre l'établissement pénitentiaire après avoir quitté une SHA, c'est aussi nos méthodes, il n'y a pas d'autre moyen que de réintégrer par étapes dans le circuit normal. C'est peut-être pour ça que ce détenu était classé auxiliaire. Une très longue peine, on ne peut garder à l'isolement en permanence pendant 20 ans, 30 ans, des condamnés à perpétuité, je ne sais pas quelle condamnation a ce détenu, mais enfin, j'ai compris que c'était une longue peine, et on ne peut pas les garder tout le temps à l'isolement, puisqu'on sait très bien que l'isolement est déstructurant pour une majorité d'entre eux. Et donc, le personnel pénitentiaire, et c'est tout à son honneur, que de pouvoir, par étapes, réintégrer dans le circuit normal des activités ces détenus.
D'accord, donc c'est peut-être ce qui explique que ce détenu particulièrement signalé était également auxiliaire dans cette prison, c'est ce que vous voulez dire.
Tout à fait, parce que lorsqu'on est auxiliaire, on est quand même observé, parce qu'on est proche des surveillants, puisque l'auxiliaire, il travaille vraiment sur le secteur de la détention. Et par ailleurs, il est DPS, donc un DPS, détenu particulièrement signalé, veut dire que l'on porte un regard assez pointu en matière de sécurité, en matière d'observation, oui, sur lui.
Bien sûr.
Ceci dit, le zéro événement de ce genre en prison, moi, ça, quand j'étais directeur, c'était mon obsession que ça m'arrive.
Oui, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre Lamotte, hein, il n'y a pas de prison invulnérable, disiez-vous. Pierre Lamotte, justement, au-delà de ce cas précis, quels sont les troubles mentaux que l'on trouve souvent en prison, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup?
Alors, ceux que l'on redoute le plus, évidemment, sont les agressions inopinées, qui sont beaucoup plus souvent le fait de psychotiques dissociés. Il y a eu déjà des précédents, malheureusement, qui sont quelquefois terminés par la mort d'un surveillant, parce que là, il n'y a pas de limite, et on est dans un système de pulsions qui se décharge d'un seul coup. En général, les gens comme Dorfer, et je rappelle, parce que pour ceux qu'on en sait publiquement, qu'il était dans une demande et dans une demande de négociation. Le problème est de le prendre pour interlocuteur alors qu'on doute de sa fiabilité. C'est ça qui est difficile. La difficulté, c'est quand on est dans un système relationnel. Quand il n'y a pas de possibilité de relation du tout, je dirais qu'on sait faire.
Oui, ça, c'est plus simple d'une certaine manière.
C'est plus simple. Le problème, c'est des gens qui sont eux-mêmes des brisés de la vie. On nous l'a dit que cet homme a commencé sa carrière sans avoir été jamais considéré à un moment ou à un autre.
Mais attendez, là, Pierre Lamotte, pour vous, est-ce qu'il y a un problème de formation, par exemple, dans le contact avec ce type de détenu?
Bien sûr qu'il y a un problème non seulement de formation, mais je crois qu'il y a un problème d'échange. Je fais partie des psychiatres qui ont toujours travaillé avec énormément d'accord avec les collègues de l'administration pénitentiaire. Et je déplore un peu que nos amis ne veulent pas prendre leur service. À mon avis, ils veulent être maintenant, ils le sont, la troisième force de sécurité après la gendarmerie et l'armée. Eh bien, ils sont aussi engagés dans un travail très difficile avec des risques. Et je comprend mal qu'on brûle des pneus ou qu'on refuse de prendre son service sous prétexte qu'il y a eu une prise d'otage. Il ne faut pas qu'on brise la collaboration entre les directeurs qui sont censés prendre des directions dans la hiérarchie et les personnels de terrain qui les assument. Il faut améliorer le dialogue et surtout que la parole du détenu soit entendue.
D'accord.
On ne peut pas dire qu'on considère le détenu si on ne lui laisse pas quelque part la parole.
Jean-Pierre,
le problème est qu'il en abuse.
Et qu'il en abuse, oui. Ça peut mal tourner, en effet.
Ah, mais les troubles de personnalité font qu'on en abuse.
Jean-Pierre Ricard, pourquoi est-ce que ces profils psychiatriques se retrouvent en prison plutôt que dans des structures plus adaptées?
Mais je crois que le docteur Lamotte l'a indiqué. C'est parce que, d'une part, ils sont condamnés, et certainement condamnés pour des crimes assez lourds, pour des infractions assez lourdes, et que, sauf à être reconnu, si je comprends bien la loi, sauf à être reconnu malade mentaux, ils ne peuvent être qu'en prison.
D'accord.
Voilà. Il n'y a pas d'autre explication.
Ouais. Et pour ce qui est du mouvement des surveillants à Condé-sur-Sarthe, vous en dites quoi, vous? Puisque Pierre Lamotte disait qu'il ne comprenait pas très bien cette réaction.
Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je sais que ça ne plaira pas toujours au personnel, mais je pense que l'on a, sur le coup, c'est normal qu'il manifeste. Ça, je le comprends, je l'accepte. Ça m'est arrivé en tant que directeur. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut vite s'arrêter parce que, d'une part, on met en danger le service public. D'autre part, comment dirais-je, c'est pas ça qui va solutionner les situations.
C'est pas un problème de moyens, c'est pas un problème d'effectifs.
Ah, vous savez, les problèmes de moyens et les problèmes d'effectifs, je crois que on les retrouve partout. Ce que je pense, c'est qu'il faut pas utiliser la population pénale, celle qui ne dit rien, celle qui ne bouge pas, donc qui est plutôt la majorité, à des fins, comment dirais-je, de revendication. Ça peut ressembler. Nous sommes au métier de la justice. Nous ne sommes pas des gens à travailler pour se venger. Et c'est vrai que ces deux personnes qui ont été prises en otage, il faut s'en occuper. Il y a des psychologues qui vont travailler avec elles. Mais je suis d'accord avec le docteur Lamothe.
Vous dites qu'il ne faut pas de réponse systématique à ce genre d'événement par un mouvement social, hein, si je vous comprends bien. Bien. C'est
oui,
ça
oui, bien compris.
Parfait. Eh bien, on va s'arrêter là, du coup. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Pierre Ricard, ancien directeur de prison, et je rappelle le titre de votre ouvrage, Traversière de hasard, mémoire d'un directeur de prison. C'est aux éditions du Panthéon. Et merci à vous, Pierre Lamothe, psychiatre, criminologue, expert honoraire, près la Cour de cassation.